Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Immo et Radio Territoria, en direct de la Porte de Versailles pour vous faire vivre l'édition 2026 du SIEC. Le commerce, ça se vit, c'est le thème de l'édition. On est ravis d'être là pendant deux jours. L'immobilier commercial se transforme, nouveaux usages, intelligence artificielle, commerce expérientiel, enjeux environnementaux, nouveaux métiers. Et derrière ces mutations, il y a une question essentielle, celle des talents. Comment attirer, comment recruter, comment fidéliser les compétences dont le secteur a besoin. Pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Bouenec. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le directeur associé de FSC Executive Search et Prisca Zanelli. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes directrice des ressources humaines d'Apsis. Alors, un petit mot peut-être chacun pour se présenter ce que vous faites. On va commencer avec vous. Apsis, un petit mot, même si on vous connaît évidemment, mais pour nos auditeurs.
Alors Apsis, on fête nos 30 ans cette année. On est une foncière de développement immobilier qui intervient sur la requalification urbaine avec des gros projets de développement. Notamment, on a un très gros projet en ce moment à Bordeaux qui s'appelle Canopia. Et puis après, on est présent en Pologne et en France. Et en France, on a aujourd'hui un patrimoine de 8 actifs partout en France.
Et vous, Jérôme, FSC Executive Search?
Tout à fait. Et ben moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je recrute exclusivement pour les acteurs de l'immobilier. Particulièrement et surtout en ce moment, on va en parler, pour les acteurs de l'immobilier du commerce. Et donc, j'ai rejoint le groupe FSC Executive Search il y a désormais 10 ans. FSC étant le premier cabinet de chasse indépendant en France.
Et alors justement, quand vous échangez avec les entreprises du commerce, de l'immobilier, immobilier commercial aussi, aujourd'hui, quel est le principal défi en matière de recrutement?
Alors, déjà, il faut s'en féliciter, effectivement, sur le SIEC, on le voit, et on l'évoquait avec Prisca tout à l'heure, ça continue à recruter. Là
bon,
où les autres classes d'actifs, dans le bureau, le résidentiel, c'est quand même très compliqué. Ici, on est sur une dynamique très positive, donc il faut s'en réjouir. Pour autant, il y a moins de volume, mais je trouve plus d'exigences. Prisca me contredira pas. Voilà, il y a moins de recrutement, donc on veut sans doute aussi moins se tromper. Une statistique intéressante, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise sur deux qui cherche à recruter a des difficultés à recruter.
Voilà. D'accord.
Et oui.
Difficulté de captiver, de capter les talents.
Capter les talents, exactement, parce qu'on est aussi sur un marché de cadres, très majoritairement. Et aujourd'hui, l'emploi des cadres, c'est le taux de chômage des cadres, c'est 4,2% de chômage. Donc c'est très faible. C'est le plein emploi en fait chez les cadres. Là où les non cadres, on est à 9,2.
Ouais.
Donc en fait, il y a deux
et
marchés d'emploi.
Plus de 21.
Exactement. Donc il vaut mieux être cadre et être un peu senior aujourd'hui. Et là, on arrive à retrouver un peu plus facilement du boulot et on est sollicité. Donc forcément, quand on est un acteur, il faut défendre sa marque employeur. Enfin voilà, Apsis fait ça très bien. Il faut avoir les leviers pour attirer les bons talents.
Et Prisca, vous confirmez ça? Vous avez des difficultés à recruter des cadres?
Oui, complètement. On observe toujours une tension sur les métiers toujours financiers, l'analyse, etc. On observe également des tensions sur les métiers de la commercialisation, de l'asset management. Mais ce que je trouve qui est un peu nouveau là depuis ce début d'année, c'est qu'on observe aussi une tension sur les métiers techniques en lien avec la partie réglementaire, gestion immobilière, développement durable, maintenance des bâtiments. Et ça, je trouve que c'est un peu une nouveauté en ce début d'année.
Donc il y a des métiers qui attirent moins.
Je dirais pas que ça attire moins, mais en tout cas, là où on me sollicite le plus depuis un an et demi, alors typiquement le leasing a le vent en poupe, on sent bien que toutes les foncières veulent s'armer là-dessus, que le taux de vacances est aujourd'hui quand même le facteur clé partout, donc ils ont tous cherché à s'armer sur ces sujets-là. Et ce qui revient pas mal, oui, en exploitation, direction de chambre, direction technique. Alors ça, je valide totalement, c'est compliqué de trouver un bon directeur technique. Ils se marketent peu, ils sont peu visibles, ils sont pas toujours à l'écoute, ils ont pas la bougeotte, ces métiers-là, donc il faut vraiment aller les attirer. Un peu asset et property, ce qui n'est pas très surprenant parce que finalement il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets, mais il faut continuer à gérer l'existant et donc ces métiers-là répondent parfaitement à ça.
Et alors on va prendre le sujet dans l'autre sens, comment, c'est quoi les clés pour attirer les talents, pour attirer ces talents-là? C'est quoi en fait ?
Les candidats aujourd'hui, alors, c'est aussi très générationnel. En tout cas, la marque employeur compte beaucoup, ça c'est
d'accord.
Certain.
Donc c'est quoi la marque employeur ? Ça veut dire qu'il faut que ce soit... On parle beaucoup d'entreprise à mission, de donner du sens. Est-ce que ça en fait partie ?
Oui, les jeunes générations sont un peu orientées là-dessus. Alors même si les jeunes générations... Bon, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, il y aurait beaucoup à dire.
Non, il ne faut pas généraliser, mais voilà. C'est vrai qu'il y a quand même des tendances.
Ils sont quand même assez exigeants, on va dire comme ça. Et je mets beaucoup d'euphémisme.
J'aime beaucoup le choix des mots.
Exactement. Mais je les appelle parfois la génération du tout de suite. Et donc, ces jeunes générations, alors c'est le salaire, mais ça, pourquoi pas. Mais voilà, il faut de la marque employeur, il faut un patron sympa, il faut un titre sympa sur LinkedIn, parce que voilà, l'image qu'on renvoie, c'est important. Dans l'immobilier commercial, c'est important aussi la qualité des actifs, quand même. Parce qu'on a beau être le meilleur leasing manager du monde, si on doit commercialiser un actif bien planté, derrière, il faut quand même ramer plus fort. Donc, ils vont être vigilants sur tous ces sujets-là.
Mmh. Et pour les moins jeunes, qu'est-ce qui attire ? C'est pas la même chose que pour les jeunes cadres, on parle beaucoup de vie de famille, beaucoup d'équilibre, vie de famille, vie pro, c'est des choses, des notions qui n'existaient pas avant. Il y a 10-15 ans, ça, on a vu l'essor après le Covid.
Tout à fait. Il y a un avant et un après Covid, ça c'est incontestable. Et le curseur vie pro, vie perso, comme vous le dites Bérénice, il a effectivement bien basculé quand même vers la vie perso et c'est encore plus vrai pour ces jeunes générations. Les projections de carrière à long terme, ça existe de moins en moins. Et aujourd'hui, on voit bien que ces jeunes générations, elles vont davantage favoriser le turnover. Elles sont impatientes. Donc, attendre le job du dessus qui se libère, ça ne marchera pas. Il faudra leur proposer quelque chose et il faut souvent être à l'affût et réagir très vite.
Et donc, pour les moins jeunes, les cadres moins jeunes, qu'est-ce qui les attire ?
Ce qui va les attirer, c'est les challenges quand même. Ils aiment voir des perspectives et avoir. Ça, pour le coup, ça répond plutôt bien parce qu'aujourd'hui, je pense, mais Prisca validera, ils ont un peu élargi leur spectre d'intervention. Avant, ils étaient quand même davantage silotés qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va leur demander d'interagir avec des services ou avec des typologies d'actifs différentes. Aujourd'hui, quel que soit le métier ou presque, il faut avoir différentes casquettes. Il faut avoir la casquette financière. Bon, la financiarisation de l'immobilier, c'est pas nouveau. Mais il faut la casquette ESG. On ne peut plus passer à côté des sujets environnementaux. Il faut la casquette data. Comment on récupère la data et comment on l'exploite. Les profils sont bien plus hybrides. Et donc, intellectuellement, c'est quand même beaucoup plus enrichissant.
Vous confirmez ?
Stimulant, oui, tout à fait. Nous, on l'observe également. On observe chez tous les talents d'ailleurs qu'on recrute, quel que soit l'âge, qu'il faut une pluralité de compétences. Bien sûr, il faut une compétence technique à l'origine, mais aujourd'hui, il faut aussi savoir interagir, savoir convaincre, savoir négocier, et ça, quel que soit le métier, en fait, et c'est vraiment des qualités qui sont essentielles et que nous, on va rechercher et qu'on va chercher à expliquer dans la culture du travail qui est la nôtre.
Il faut être polyvalent, en fait.
Oui, exactement. Hybride, polyvalent, s'intéresser à plein de sujets.
Plus qu'avant.
Je pense plus qu'avant. Et puis, typiquement, on prend un sujet d'actualité sur l'IA, on va tous devoir se former très vite.
Justement, on peut se dire aussi l'inverse. On peut dire, tiens, il y a de l'IA, donc je vais être plus assisté dans certaines tâches, donc moins de compétences. Enfin, on peut prendre la chose dans l'autre sens.
Oui, alors, l'IA va tout changer. Je pense que sur des métiers comme le property management, les tâches administratives qui leur prenaient beaucoup de temps, ils vont gagner beaucoup de temps.
Ça, c'est bien, c'est une bonne chose.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que pas grand monde s'en plaindra. Ouais. Et donc, ils vont peut-être pouvoir consacrer plus de temps aussi à la relation client. Moi, je suis sûr que la relation client va fortement évoluer et que les property, les leasing, ils vont vraiment accentuer là-dessus.
Et créer de la valeur, si je peux me permettre d'ajouter, sur vraiment l'analyse, la pertinence de mettre des décisions en arbitrage, etc. C'est là où on attend, en fait, l'ensemble des talents.
Et quelles sont quelles sont les compétences qui montent aujourd'hui ? Un profil, c'est quoi les compétences primordiales pour être recruté ?
Alors, il y a les compétences métiers, il y a les soft skills. Et donc sur les soft skills, je pense qu'aujourd'hui, on revient sur la valeur de l'engagement. Comme il y a un sujet, je pense que les employeurs sont très attentifs à avoir quand même des candidats qui soient engagés, qui croient au projet et qui soient curieux, qui n'hésitent pas à dépasser aussi un peu la fiche de poste. C'est bien de faire son job, mais il faut quand même s'intéresser un peu à ce que font les autres et d'élargir sa palette de compétences. Donc c'est fortement axé là-dessus.
Et vous, chez Apsys, quelles sont les compétences Je sais pas, après, parfois, c'est vrai qu'en fonction des entreprises, il y a certaines valeurs qui sont demandées.
Complètement.
Ça varie, hein, et c'est normal, d'ailleurs.
Tout à fait. Et vraiment, cette adaptabilité à rentrer dans la culture de travail de l'entreprise, je pense que ça, c'est clé. Surtout pour des jeunes profils, parce qu'en fait... Bien entendu, il y a le socle commun de la technicité et d'expertise métier. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous allez savoir travailler avec un ensemble de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts au même moment ? Et ça, c'est clé, d'avoir cette intelligence relationnelle de la culture du travail, de savoir collaborer, de savoir fédérer, de savoir convaincre. Et ça, c'est valable pour tous les métiers.
Et ça, c'est plus facile de collaborer. Là, je pense aussi qu'il y a un avant après Covid. Quand il y a le recrutement, puis après, il y a garder les talents.
Exactement.
Il y a intégrer les talents, donc l'intégration au sein d'une équipe. Ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a une évolution avant, après ?
Je pense, en tout cas, nous, dans les entreprises, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a vraiment une qualité du soin qui est apporté à l'onboarding, donc ce processus d'intégration des collaborateurs. Qui est maintenant très processé et qu'on retrouve parmi vraiment toutes les entreprises de notre secteur et même partout en France.
J'ai l'impression que ça vient des États-Unis, non ? Ça, si je me trompe. Bon, peut-être que je raconte des bêtises, hein, mais j'ai l'impression que c'est très à la base c'était très américain.
Le terme est anglo-saxon. Est-ce que ça vient de là ? Je ne m'avance pas.
Parce que les Américains, ils sont plein de process, etc. Ils sont forts justement pour l'intégration, quand on voit dans les boîtes américaines, c'est ça chez Google, Meta, etc. Ça fait des années que c'est mis en place.
Tout à fait. Et puis nous, ça nous challenge aussi sur nos pratiques, ça nous remet en question. C'est des process qu'on révise très régulièrement pour être certain que le coût du recrutement va pouvoir être vraiment bénéfique à l'entreprise, qu'on ne va pas rompre la période d'essai, que les collaborateurs ne vont pas partir et que vraiment on va arriver à mutualiser nos intérêts communs.
Il y a le taux d'échec concernant le recrutement, il a évolué ou pas ?
Non, je ne trouve pas. Je dirais que non.
Vous êtes bien accompagnés en même temps.
On est bien accompagnés, c'est vrai. Exactement, on a beaucoup de chance.
Merci.
Non, mais on y est très sensible. Et puis, c'est vraiment un travail collaboratif et pas exclusivement RH. C'est un travail managérial. C'est un travail vraiment au niveau de l'ensemble de la direction des entreprises qui porte un grand soin.
Oui, parce que vous me faut rappeler qu'une entreprise, elle mise sur un talent.
C'est
un investissement.
Elle mise, elle y croit, elle mise sur le long terme. Elle va former le talent, passer du temps avec lui. Ouais. Elle va le projeter dans sa masse salariale. Elle va le projeter en termes de mobilité. Et c'est ça ce que recherchent aujourd'hui les collaborateurs qui nous rejoignent.
Ouais, un mauvais recrutement coûte extrêmement cher à une entreprise.
Oui, c'est bien de le rappeler.
Et oui. Parce que quand il y a une rupture de période d'essai, on gère de l'humain. Donc le risque zéro n'existe pas. Hein. Il faut rester très humble face à ça. Mais un mauvais recrutement coûte cher parce que on a parfois payé un prestataire pour ça. En tout cas, on y a consacré du temps, parfois une annonce. Et puis ça déstabilise les équipes. Parfois, ils repartent avec leur carnet d'adresse. Il faut faire très attention et ça remet de compétences.
Comment vous avez un don, non, j'exagère un peu, mais comment vous savez qu'une personne est faite pour ce poste ? Comment vous voyez, j'imagine que vous passez beaucoup de temps avec les DRH, vous imprégnez de la culture de l'entreprise ?
Ça commence par le brief client.
Ouais.
Alors, c'est tout l'intérêt, c'est quand on connaît bien son client, c'est de plus en plus simple, évidemment, parce qu'on connaît l'ADN, on se connaît la culture, on sait. Parce qu'il y a des très bons profils qui vont marcher dans une boîte et pas dans une autre.
C'est ça.
Les cultures ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Donc, quand on connaît la culture du client, forcément, on va aller plus vite en disant ce candidat, je sais qu'il est fait pour cette boîte-là et que ça va bien marcher. Donc, non, il n'y a pas de don. Une fois de plus, c'est de l'humain, donc il faut rester humble. Après, nous, notre job, c'est de diminuer le risque. Donc, pour ça, on rencontre les candidats et j'insiste sur le fait de rencontrer aussi. Physiquement, les candidats.
Pas qu'en visio.
Non, le visio, ça permet de gagner du
limite.
Temps, mais on ne peut pas évaluer de la même manière.
Ah oui.
Ça, c'est certain. Donc, on a des jolis bureaux bien placés. Donc, chers candidats, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on se bagarre pour ça au quotidien. Donc, il y a les entretiens qui sont qualifiés. Derrière, on fait passer des questionnaires de personnalité. On fait des prises de référence. Donc, on a un maximum d'outils pour, au final, diminuer le risque.
Après, vous dites que ce n'est pas un don, mais il faut quand même, je pense, de l'intelligence émotionnelle pour cerner le tempérament. Parce qu'il y a des choses, il y a les compétences, il y a ce qu'il y a sur le CV, il y a le factuel, mais il y a aussi une part d'émotion, de ressenti.
Oui, alors ça, c'est aussi venu avec l'expérience. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Il y a des erreurs que j'ai fait au début que je ne fais plus aujourd'hui.
Il y a
des sujets, moi, qui m'amusent toujours beaucoup. Je vais parler typiquement des sujets commerciaux au sens large, et donc ça va être les leasing managers. Prisca connaît ça par cœur, mais généralement, les commerciaux, en tout cas, ils savent bien se vendre. mais c'est pas pour ça que c'est des bons commerciaux. Et donc là, il faut gratter un peu plus avec eux, parce que souvent, en première approche, on peut se dire il a de la tchatche, bon, ouais. Ça fera un bon commercial. Bah, pas du tout. Déjà, un bon commercial, il y a surtout de l'écoute avant tout le reste. Et puis, il met fortement en avant ses expériences, ses résultats, mais quand on creuse sur les résultats, bah, c'est pas toujours les siens. C'est parfois celui de son manager, il y a de l'appel entrant. Donc, il faut vraiment aller plus loin pour voir si effectivement, quelle est sa part de réussite là-dedans.
Donc, vous êtes aussi détective privé.
Non, je ne vais pas si loin. Mais l'intérêt,
c'est... Non, mais il faut creuser, c'est intéressant ce que vous dites.
L'immobilier commercial, c'est un petit monde. On le voit ici, hein, les gens se connaissent. Et donc, l'image compte énormément. Et donc, les gens, ils vont d'une foncière A à une foncière B, généralement. Donc, ceux qui laissent une mauvaise image, ça se sait vite. Et donc, en ayant un peu de réseau, on sait vite quelle image il a pu laisser et si on peut se projeter avec lui.
Un petit mot peut-être sur le siècle, Prisca. Alors, l'édition 2026, on se disait tout à l'heure que c'était une bonne édition. Vous êtes satisfaite à Absys, donc vous avez un stand. Qu'est-ce qui a marqué? Alors, on est aux trois quarts, là, on peut faire un pré-bilan. Qu'est-ce qui a marqué cette édition 2026?
Bah, nous, on est ravis. D'abord, c'est un siècle qu'on avait préparé très fortement. On avait énormément de rendez-vous. On a une actualité très forte avec l'ensemble de nos projets de développement et à la fois notre portefeuille existant. Donc, nous, on est vraiment ravis d'être ici cette année encore.
Donc, les rendez-vous business ont été faits. Il y en a encore cet après-midi.
Exactement.
Ça met combien de temps pour préparer un salon comme ça?
Je dirais qu'on y est depuis le début de l'année, hein, en fait.
D'accord. Donc 6 mois. Hein.
Ouais, 6 mois. Et puis même la réservation des stands vient très, très vite d'une année sur l'autre, les emplacements, etc. Donc, c'était des rendez-vous très importants pour nous.
Et Jérôme, pareil, vous êtes satisfait de cette édition?
Oui. Le siècle, pour moi, c'est absolument incontournable. Avant, il y avait deux salons incontournables. Il y avait le MAPIC, le siècle. Le MAPIC a un peu perdu en intérêt aujourd'hui. Puis c'est très cher, on peut se le dire.
En ce moment, on fait attention aux coûts et aux dépenses. Ouais.
Donc, quand on est présent sur le marché de l'immobilier commercial, le siècle est absolument incontournable. Donc, voilà. Moi, en tout cas, sur ma partie à moi, tous les clients, les prospects ou les candidats potentiels, ils sont tous ici. Donc en 2 jours, ça permet de faire 3 ou 4 mois de rendez-vous. Donc oui, c'est hyper positif.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment. Merci pour cet échange passionnant sur le recrutement des talents. Nous, on se retrouve dans quelques instants en direct du siècle. On est à la porte de Versailles. On vous fait vivre cet événement. Le siècle sur Radio Immo et Radio Territoria. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.